des promesses pour s'aimer et des promesses auxquelles il s'efforce de rester fidèle. C'est le but du mariage d'être fidèle à ses promesses. Mais j'ai aussi pensé à un exemple biblique dans la Bible. Je pense à Paul, hein, Paul qu'on connaît parce qu'il a écrit plusieurs livres de la Bible, et à la fin de sa vie, il a écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul qui a été fidèle jusqu'au bout et qui en était fier. Donc on va parler de la fidélité ce matin. Alors l'équipe enfance avec Diane a prévu un coloriage, une activité. Si les enfants ne l'ont pas, vous pouvez aller le chercher au fond avec des feutres à côté de Ivan et François. Et donc, nous allons nous développer ce sujet pendant la prédication. Nous continuons donc notre série sur le fruit de l'esprit, à travers l'étude des différents aspects de ce fruit. Et la dernière fois que je me tenais devant vous, c'était il y a 2 semaines, et je faisais état avec vous d'une difficulté, c'est que dans le verset que nous étudions, il y a 2 mots différents qui veulent dire à peu près la même chose, qui sont très similaires. Les mots traduits par bonté et bienveillance. Et cette fois-ci, comme je le disais avec les enfants, il y a une autre difficulté, j'ai pas de chance finalement, un mot qui a 2 significations. En effet, le mot grec pistis veut dire à la fois la foi, c'est-à-dire la confiance que le croyant met dans son Dieu, confiance peut faire en lui pour être délivré, pour être sauvé, mais aussi la fidélité, c'est-à-dire la qualité d'un homme qui est fidèle à sa parole et à ses engagements. Auquel de ces 2 sens Paul pense-t-il? Si vous regardez dans les traductions qu'on a en français, on se rend compte qu'elles ont du mal à choisir, ça se partage. Les commentaires, par contre, que j'ai lus s'accordent pour choisir la fidélité. Et c'est là le sens que je retiens également. Parce qu'il est vrai que la foi est un don de l'esprit et le croyant a besoin au cours de sa vie de toujours plus faire confiance à Dieu, de grandir dans sa foi. Mais dans ce passage, dans ce verset, Paul détaille des qualités éthiques, c'est-à-dire une façon concrète de vivre sa vie au milieu du monde, les uns avec les autres. Plus que la foi, qui est quelque chose d'assez intime qu'on a avec Dieu, la fidélité va dans ce sens de quelque chose qui est visible, une traduction de notre foi, du fruit de l'esprit en nous. La fidélité décrit la qualité d'un homme sur le service fidèle duquel on peut se reposer, de la loyauté duquel on peut dépendre, dont on peut accepter les propos sans réserve. Fidélité, loyauté, propos sur lesquels on peut se reposer, dépendre, faire confiance. Voilà ce qu'est la fidélité. Et ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, mais quand on parcourt la Bible, finalement, on se rend compte que la fidélité des hommes est importante. C'est quelque chose que Dieu met en avant. On pense par exemple à la parabole des talents, qui met en valeur la fidélité des serviteurs, puisque la conclusion de cette parabole, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Paul cite également la fidélité comme des critères pour choisir les responsables de l'Église. Et puisqu'on parle de Paul, c'est une qualité qu'il recherche pour lui-même et qu'il met en valeur dans sa vie. Cette fidélité qui est importante, cherchons donc à mieux la connaître. Tout d'abord, la fidélité est quelque chose qui se construit dans la durée. Au serviteur fidèle de la parabole des talents, le maître dit « Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. » La fidélité commence par s'exercer modestement avant d'embrasser des engagements plus grands. La fidélité est aussi une qualité qui nous amène plus profondément dans la relation. Et je suis frappé de l'enchaînement dans ce verset. La progression, bonté, bienveillance, fidélité. Alors, un petit rappel des prédications précédentes. La bonté, c'est l'orientation positive que nous avons envers tous. Et la bienveillance, c'est mettre du concret dans notre attitude les uns envers les autres. Et nous nous souvenons des exemples très concrets que Michael nous a donnés la semaine dernière. Eh bien, la fidélité, c'est aller un pas plus loin en inscrivant cette démarche dans la durée. Non seulement l'accueil, non seulement le concrétiser, mais rester fidèle à cela dans le mouvement, dans la durée. Et pour illustrer mon propos, j'aimerais lire un passage de Paul justement aux Galates, un peu plus tôt, au chapitre 4, verset 13. Je vous l'ai mis ici. Vous vous rappelez que lorsque je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois, j'étais malade. La vue de mon corps malade était éprouvante pour vous, et pourtant vous ne m'avez pas méprisé ni repoussé. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Vous étiez si heureux, que vous est-il donc arrivé ? Je vous rends ce témoignage, si cela vous avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Mais maintenant, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ? Un attachement bien intentionné est une bonne chose, que cela se produise en tout temps et non seulement quand je suis parmi vous. Je parlais d'une progressivité, on la retrouve dans ce texte. Il y a d'abord la bonté des habitants de Galates. Vous ne m'avez pas repoussé, mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, l'accueil ouvert. Ensuite, ils ont fait preuve de bienveillance. Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Traduction concrète de leur accueil, qui peut aller très loin. Mais la fidélité, elle fait défaut. Maintenant, dit Paul, suis-je devenu votre ennemi parce que je dis la vérité ? Si le démarrage a été enthousiaste dans l'attitude comme dans la pratique, lorsque Paul s'est mis à dire des choses qui plaisaient moins, les Galates se sont détournés de lui. Or, c'est là qu'intervient la fidélité, lorsque ça devient difficile. Difficile de poursuivre le même attachement. Mais assez parlé des Galates, nous aussi, nous avons à cultiver la fidélité, à la faire grandir en nous. Je crois que de nombreux lieux existent pour la vivre. J'ai parlé avec les enfants du mariage, dont elle est un des piliers, mais j'aimerais parler d'un lieu que nous avons tous en commun, l'Église. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'Église, ce n'est pas une nébuleuse abstraite, partout dans le monde et concrètement nulle part. Ce n'est pas non plus une institution, une machine, où il faut que chacun prenne sa part pour que ça marche. L'Église, c'est un rassemblement de chrétiens qui veulent incarner ensemble la présence de Dieu dans leur ville. Et dans cette optique, la fidélité est cruciale afin de, ensemble, construire un témoignage qui tienne ferme sur la durée. Car pour ceci, pour construire, nous avons besoin de nous appuyer les uns sur les autres. Comment ça se passe dans l'Église ? Tout d'abord, l'Église est un lieu de service. Certains services semblent importants parce qu'ils sont visibles, je pense en particulier à ceux qu'on retrouve sur les strates devant les autres, mais d'autres services le sont beaucoup moins, et c'est un très bon moyen de faire de petites choses avant de s'en voir confier des grandes. Je pense au ménage, à l'accueil, avec les contraintes actuelles et contraintes sanitaires, sans des personnes fidèles pour mettre en place la salle, pour nettoyer, on ne pourrait pas se réunir. Je pense aussi aux travaux dans notre nouveau bâtiment. Il nous faut terminer ce nouveau lieu de culte vers lequel nous avons décidé d'aller. J'insiste sur le « nous ». Ce n'est pas une instance supérieure qui nous a imposé ce projet, le conseil ou la fédération. C'est nous qui l'avons décidé ensemble parce que nous reconnaissions dans ce projet la volonté de Dieu pour nous. Nous avons un défi, celui d'être fidèles dans la durée. Si le service est un lieu d'exercice de la fidélité, l'offrande en est un autre, évident. Par ce geste, par ce don, nous assumons ensemble les projets communs que nous formons. Avoir des locaux, nous en avons parlé, avoir un pasteur, c'est-à-dire quelqu'un que l'on rend disponible pour s'occuper du troupeau que nous formons. Quand nous prenons de telles orientations, nous en connaissons le coût et nous nous engageons à y prendre part fidèlement. Mais j'aimerais également parler d'un autre engagement où la fidélité s'exerce, c'est l'assistance au culte. Je ne parle pas de venir pour faire le nombre et encourager les responsables. Je parle de notre présence active au culte. En effet, ne croyons-nous pas que connaître Dieu est la meilleure chose que nous avons? Ne croyons-nous pas qu'être ensemble, en sa présence, le louer, l'écouter, est un privilège? Nous le croyons, oui. Et c'est ce que nous voulons donner à voir. Alors, venons. Venons avec joie, avec la soif de recevoir, avec l'envie d'offrir. Car si nous ne sommes pas fidèles, ceux qui nous regardent, ceux qui nous observent, se demanderont avec raison si nous croyons vraiment ce que nous confessons. Le service dans l'Église, l'offrande, l'assistance au culte sont des exemples pour notre fidélité. Ils peuvent nous paraître peu importants, mais ce sont des lieux d'exercice où nous pouvons nous montrer dignes de confiance. Et en même temps, nous nous rendons compte avec cette petite chose qu'il n'est pas facile d'être à la hauteur, d'être au top sur la durée. Dans la Bible, l'auteur du livre des Proverbes s'interroge. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? L'homme fidèle, il existe. Nous l'avons trouvé en Jésus-Christ. Par fidélité à sa promesse de sauver l'humanité, Dieu a envoyé son Fils, Jésus. Par fidélité, celui-ci est allé jusqu'à la mort sur la croix. Le rachat des péchés avait un coût élevé. Il est allé jusqu'au bout pour le payer. Mais sa fidélité nous encourage dans le chemin exigeant qui est le nôtre. Que dans nos engagements pris les uns envers les autres, dans l'Église ou ailleurs, nous sachions, nous aussi, grandir dans la fidélité et dans le fruit de l'esprit.